Radio Vatican, France-Afrique.
Chers amis, bienvenue à l'écoute de cette émission dont voici les principaux titres. L'actualité de l'Église a été marquée vendredi 18 septembre, notamment par les audiences du pape. L'actualité politique et sociale en Afrique nous conduira au Mali, en Algérie et en République centrafricaine, entre autres. Commençons par l'actualité de l'Église.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Le pape a reçu tour à tour vendredi en audience privée Mgr Luciano Suriani, nonce apostolique en Serbie, Mgr Paul Hinder, vicaire apostolique d'Arabie du Sud et administrateur apostolique du vicariat apostolique d'Arabie du Nord. Toujours vendredi, dans la matinée, les membres de la rédaction du magazine hebdomadaire Tertio, un organe de presse belge, ont été également les hôtes du pape. Dans son adresse, François leur a rappelé que dans notre société actuelle, l'information fait partie intégrante de notre quotidien. Lorsqu'elle est de qualité, elle nous permet de mieux comprendre les problèmes et les défis auxquels le monde est appelé à faire face, tout en inspirant les comportements individuels, familiaux et sociaux. La communication, a poursuivi l'évêque de Rome, est une mission importante pour l'Église. Les chrétiens engagés dans ce domaine sont appelés à mettre en œuvre de manière très concrète l'appel du Seigneur à aller dans le monde et à proclamer l'Évangile. Pour le Saint-Père, le professionnel chrétien de l'information doit donc être un porteur d'espérance et de confiance en l'avenir, car c'est seulement lorsque l'avenir est assumé en tant que réalité positive et possible que le présent devient aussi vivable. François a renouvelé ses encouragements aux membres de la rédaction du magazine hebdomadaire Tertio et leur a fait savoir que l'Église se tourne vers eux avec confiance et attente, car ils sont appelés à lire et à interpréter les temps présents et à identifier les voies pour une communication de l'Évangile selon le langage et la sensibilité de l'homme contemporain. Au chapitre de nomination, le Saint-Père a nommé vendredi M. Jean-Marie Dutilleul, membre ordinaire de l'Académie pontificale des Beaux-Arts et des Lettres de la Vertu au Panthéon pour la classe des architectes. Depuis plus de 2 mois, le Niger est aux prises avec des pluies torrentielles et des inondations causant de graves dommages aux infrastructures et à l'agriculture du pays. L'archevêque de la capitale Niamey, Mgr Laurent Lompo, tire la sonnette d'alarme. En ce moment, la plupart des villages le long du fleuve Niger sont sous l'eau. Cela a causé d'énormes dégâts aux champs, aux cultures de riz, mais aussi des pertes humaines, déclare le prélat, signalant que c'est un coup dur pour le Niger, menacé par le terrorisme et les crises alimentaires répétées. L'église Famille de Dieu au Niger a également été touchée dans une paroisse située sur les rives du fleuve. Plusieurs fidèles se sont retrouvés sans abri dans une autre paroisse. Une communauté de missionnaires de la charité de Mère Teresa de Calcutta a été contrainte de quitter sa maison et les malades reçus dans leur dispensaire ont été transférés vers d'autres établissements de santé. La Caritas locale a déjà pris des mesures pour aider les victimes, mais ce n'est pas suffisant, estime Mgr Lompo, qui se tourne donc vers toutes les personnes de bonne volonté pour soutenir le travail de l'Église. Une aide supplémentaire nous permettra de mieux aider la population, a déclaré l'archevêque de Niamey, s'inquiétant également de la réouverture prochaine des écoles. Mgr Luis Fernando Lisboa, évêque de Pemba au Mozambique, qui couvre la province de Cabo Delgado, frappée par la crise, a dans un article salué la campagne de solidarité intitulée « Ensemble pour Cabo Delgado ». Mgr Lisboa a indiqué que la campagne de solidarité porte des bons fruits parce que de plus en plus de personnes prennent conscience de ce qui se passe à Cabo Delgado et que la population est devenue plus solidaire. lancé en juillet par la direction du diocèse de Pemba, la campagne de solidarité Ensemble pour Cabo Delgado vise à renforcer l'effort des travailleurs humanitaires qui répondent à la crise dans la province septentrionale du Mozambique. Outre les Mozambicains, les diocèses d'autres nations manifestent également leur soutien à la campagne, déclare Mgr Lisboa, qui fait remarquer qu'ils ont été contactés par des personnes au Portugal, en Espagne et en Italie qui veulent aider la population de Cabo Delgado. Rendons-nous en République démocratique du Congo pour parler de la conférence épiscopale de ce pays qui a rappelé aux honorables parlementaires et sénateurs leur devoir de voter des lois qui donnent la priorité à l'intérêt du peuple congolais. Dans leur déclaration, les évêques congolais appellent les législateurs du pays à relayer effectivement les aspirations profondes du peuple au changement et ne pas voter des lois qui ne rencontrent pas le bien du peuple congolais. Mettez-vous réellement au service du peuple qui a opté pour le changement, gérez utilement le temps pour voter des lois qui promeuvent la démocratie plutôt que les intérêts partisans, déclarent les évêques dans leur déclaration collective publiée le jeudi 17 septembre. Faisant référence à leur message de juin au peuple congolais intitulé « Qui sème le vent récolte la tempête », les prélats congolais invitent les législateurs de leur pays à s'assurer que la majorité du Parlement n'abuse pas de sa force numérique pour faire passer des lois défavorables au progrès de la démocratie. Pour les évêques congolais, la loi de la majorité n'est pas nécessairement synonyme de vérité ou de raison, ni une garantie de cohésion sociale. Une majorité parlementaire, aussi légale soit-elle, perd sa légitimité lorsqu'elle est déconnectée des intérêts et du bien-être du peuple. Les évêques appellent également les législateurs à contrôler sans complaisance les membres du gouvernement et les mandataires de l'État et ne pas chercher à modifier et à tailler sur mesure des individus ou des partis politiques. Ils sont également opposés à toute tentative de modifier les dispositions de la Constitution, particulièrement celles relatives au mode de scrutin. La conférence épiscopale du Congo invite enfin la population à demeurer unie et vigilante pour barrer la route à toute majorité ou minorité qui tenterait de prendre en otage leur pays et leur avenir par des subterfuges politiciens dilatoires. Restons en République démocratique du Congo pour parler avec notre correspondant local des ordinations sacerdotales dans le diocèse de Lissala.
Le diocèse de Lissala, dans la province de la Mongala, compte désormais 90 prêtres diocésains, avec l'ordination le dimanche 13 septembre de M. l'abbé Guilherme Bouekenya, par l'administrateur apostolique de Lissala, Mgr Ernest Mboko, archevêque de Mbandaka Bikoro, ancien évêque de Lissala. L'ordination sacerdotale s'est déroulée au cours de l'Eucharistie qu'ont célébré par 66 prêtres sur la place de la cathédrale Saint-Hermès. À l'homélie, Mgr Ngoko a exhorté au pardon mutuel selon l'évangile du jour. L'archevêque a ensuite félicité le diacre Guilherme Bouekenya pour sa foi, le courage et la persévérance dans la formation vers le sacerdoce et l'ordination sacerdotale. Dès le lundi 14 septembre, le nouveau prêtre a rejoint l'ensemble des prêtres de Lissala réunis en session sur le motu proprio du Saint-Père François contre les abus sexuels sur mineurs et personnes vulnérables. À l'entrée de la session, les prêtres de Lissala ont été invités par M. l'abbé Marcel Ndjonjo à une retraite sur le thème « Apprends-nous à prier ». À noter qu'une semaine auparavant, le dimanche 6 septembre à Mbandaka, Mgr Ernest Ngoko a ordonné 5 prêtres. M. les abbés Alphonse Longawo, Éloge Bempoa, Joël Eyalé, Romuald Matumele et le père Olivier Biembe, missionnaire du Sacré-Cœur. Jean-Baptiste Malenge Kalunzu pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Les obsèques nationales de l'ancien président du Mali, Moussa Traoré, ont débuté vendredi à Bamako en présence du chef de la junte au pouvoir dans ce pays, le colonel Assimi Goïta et d'autres ex-dirigeants nationaux. Une fanfare mortuaire a marqué l'arrivée du corps dans un cercueil drapé aux couleurs du Mali. dans un camp militaire de Bamako survolé par deux avions où se déroulaient des obsèques en présence de soldats en tenue d'apparat, selon des témoins sur place. Moussa Traoré est décédé le 15 septembre à Bamako à l'âge de 83 ans, après avoir dirigé le Mali pendant 22 ans, à la suite d'un coup d'État qui avait renversé en 1968 le président Modibo Keïta, qui était au pouvoir depuis 1960. Les corps de quatre migrants naufragés qui tentaient de gagner l'Europe à bord d'une embarcation de fortune ont été repêchés au large de Mostaganem, cinq autres ayant pu être sauvés. L'embarcation de ce groupe de migrants, tous de nationalité algérienne, avait chaviré à 90 km à l'est de Mostaganem. Les gardes-côtes poursuivaient les recherches en mer pour retrouver d'éventuelles autres victimes de l'accident. En Algérie, une loi votée en 2009 punit jusqu'à 6 mois de prison toute tentative de quitter le territoire national clandestinement. Elle punit également les passeurs de peine pouvant aller jusqu'à 20 ans d'emprisonnement. Par ailleurs, l'accès à Internet a été coupé et les réseaux sociaux ont été bloqués pendant 5 jours cette semaine en Algérie pour combattre la triche pendant les épreuves du baccalauréat. Diplôme convoité car porte d'entrée à l'université. Depuis plusieurs années, les autorités algériennes ont recours à cette mesure radicale qui perturbe sérieusement des activités économiques cruciales et autres, en particulier à l'heure de la crise sanitaire. En moins de 4 mois des élections présidentielles et législatives, c'est l'incertitude en Centrafrique. La guerre civile entamée en 2013, même de basse intensité, sévit toujours. Les tensions politiques s'avivent et l'organisation du scrutin prévu le 27 décembre a pris du retard. Le président Faustin Archange Touadéra devrait briguer un second mandat, mais doit composer avec le retour en force de François Bozizé, le chef de l'État renversé en 2013, à l'issue d'un putsch de milices coalisées au sein de la CELECA. La question est aussi de savoir si on peut tenir des élections crédibles dans un pays encore aux 2/3 aux mains de groupes armés rebelles qui risquent de monnayer au prix fort leur soutien aux candidats ou d'empêcher le vote sur de larges portions du territoire.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est dit vendredi attristé par le départ programmé du chef du gouvernement libyen basé à Tripoli, Fayez al-Sarraj, un allié de la Turquie qui le soutient militairement face aux forces du maréchal Khalifa Haftar. Le chef du gouvernement d'Union nationale libyen a annoncé mercredi être prêt à quitter ses fonctions avant fin octobre pour céder la place à un nouvel exécutif issu de pourparlers interlibyens visant à parvenir à une issue politique à la crise libyenne. Depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, la Libye est en proie à des luttes d'influence et aujourd'hui, deux autorités se disputent le pouvoir. Le président somalien Mohamed Abdoulaye Mohamed a nommé jeudi un nouveau premier ministre quelques heures après avoir conclu un accord avec les leaders politiques régionaux pour organiser des élections l'année prochaine. Ces élections abandonneront la promesse d'introduire un système électoral universel donnant une voix à chaque électeur. Le bureau de Farmajo, surnom donné au président, a annoncé tard jeudi la nomination de Mohamed Hussein Roble, un ingénieur civil formé en Suède, qui fait ici ses débuts en politique. Il lui a souhaité de prendre la charge et les tâches à venir avec diligence.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Le magazine sur l'actualité internationale de la semaine avec Françoise Niamien.
Dans le cadre de notre magazine, voici quelques brèves qui ont marqué l'actualité internationale cette semaine. La Chine a annoncé vendredi avoir lancé des exercices militaires à proximité de Taïwan en réponse à l'arrivée la veille d'un ministre américain sur l'île, considéré par Pékin comme territoire chinois. L'opposante belarusse, Svetlana Tikhanovskaya, a demandé vendredi à la communauté internationale de réagir avec la plus grande fermeté à la répression de la contestation au Bélarus dans un message vidéo diffusé au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Par ailleurs, contesté dans la rue depuis août, le président belarusse, Alexandre Loukachenko, a rencontré lundi son homologue russe Vladimir Poutine, son principal soutien qui s'est dit convaincu qu'il surmonterait la crise. Quelques 6 000 des 13 000 réfugiés chassés par l'incendie du camp de Moria sur l'île de Lesbos étaient installés dans le nouveau camp, ont indiqué vendredi les autorités grecques, selon lesquels 157 des réfugiés avaient été testés positifs au coronavirus. Plus de 30 millions de cas de COVID-19 ont été recensés dans le monde avec un taux de transmission jugé alarmant en Europe où de nouvelles mesures sanitaires draconiennes sont attendues à partir de vendredi au Royaume-Uni et en Espagne. En Israël, un nouveau confinement général du pays entre en vigueur vendredi pour 3 semaines. Au Royaume-Uni, le projet de Boris Johnson de revenir en violation du droit international sur certains engagements pris dans le cadre du Brexit a franchi lundi un premier obstacle au Parlement britannique malgré la fronde d'une partie du camp conservateur. 3 femmes, dont 2 Africaines et 1 Sud-Coréenne, ont été sélectionnées vendredi aux côtés d'un Saoudien et d'un Britannique pour le deuxième tour du processus de désignation du directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, OMC. Le Conseil national électoral équatorien a annoncé jeudi l'organisation d'élections générales en février prochain afin de désigner le futur président, son vice-président ainsi que les 137 parlementaires pour la période 2021-2025. L'équipe de l'opposant russe Alexei Navalny a affirmé jeudi que des traces de l'agent inervant ayant empoisonné l'opposant, selon Berlin, avaient été retrouvées sur une bouteille d'eau en plastique récupérée dans la chambre d'hôtel où il avait séjourné. Alexei Navalny, qui a diffusé mardi sur Instagram un premier message et une photo de lui depuis son empoisonnement présumé fin août, et sa porte-parole a signifié qu'il reviendrait en Russie une fois remis. Yoshihide Suga, âgé de 71 ans, le nouveau chef du Parti libéral démocrate au pouvoir au Japon, a été élu mercredi nouveau premier ministre par le Parlement en remplacement de Shinzo Abe qui se retire pour des raisons de santé. L'Inde a dépassé mercredi la barre des 5 millions de cas recensés de coronavirus. Aux États-Unis, le candidat à l'élection présidentielle Joe Biden a attaqué frontalement mercredi son adversaire Donald Trump sur le thème de la COVID-19, remettant en cause sa crédibilité, lui qui agite la promesse de l'arrivée imminente d'un vaccin alors que le pays approche la barre des 200 000 morts. Dans un autre registre, le président Donald Trump a balayé lundi d'une phrase les inquiétudes sur le réchauffement climatique lors d'une visite en Californie, en proie comme toute la côte ouest des États-Unis, à des incendies meurtriers d'une ampleur historique aggravée par une sécheresse chronique. « Ça finira par se refroidir », a dit Donald Trump. La récession mondiale devrait être moins sévère que prévu en 2020 grâce à la réaction rapide et conséquente des États, a estimé mercredi l'Organisation de coopération et de développement économique qui enjoint au gouvernement de prolonger leur plan de soutien en 2021 au moment où la reprise plafonne. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a signé mardi avec les Émirats arabes unis et Bahreïn des accords historiques dénoncés par les Palestiniens sous l'égide de Donald Trump.
La rubrique sur l'environnement est présentée par Armel Amouyehundou.
Comme commençons notre rubrique sur l'environnement par la Côte d'Ivoire, où le Bureau Afrique du Centre mondial pour l'adaptation a été lancé à Abidjan le 16 septembre dernier. Hébergé au siège de la Banque africaine de développement, le Centre mondial pour l'adaptation, section Afrique, a pour objectif de nouer des partenariats sur tout le continent pour porter à grande échelle et accélérer les mesures d'adaptation qui protègent les communautés africaines des impacts du changement climatique. Il se concentrera sur les programmes et les actions, la diffusion élargie et plus rapide des connaissances, le renforcement des capacités et la définition des priorités répondant aux défis aigus du changement climatique auxquels les pays africains sont confrontés. Le Centre mondial pour l'adaptation, section Afrique, appuiera les efforts visant à améliorer la sécurité alimentaire d'un milliard de personnes en Afrique subsaharienne d'ici à 2030 grâce à un programme sur le bien-être rural et la sécurité alimentaire. Sont également prévus des projets de soutien aux communautés à travers des programmes de gestion de l'eau pour la croissance urbaine et la résilience, l'utilisation de la nature pour une infrastructure plus résiliente, ainsi que le financement de l'adaptation et le renforcement du leadership des jeunes. Ratifiée par l'intégralité des membres de l'ONU, à l'exception des États-Unis, la Convention sur la diversité biologique, en 2010, fixait 20 objectifs pour mettre un terme à la perte de biodiversité. Selon le rapport publié ce septembre par la Convention de l'ONU sur la diversité biologique, sur les 20 objectifs, aucun n'a été complètement atteint, et si seulement l'ont été partiellement. Néanmoins, si rien n'avait été fait dans certains de ces domaines, la situation serait encore plus dramatique qu'elle est aujourd'hui, a déclaré Elisabeth Marouma-Mrema, secrétaire exécutive du secrétariat de la Convention sur la diversité biologique. L'échec mondial dans la réalisation des objectifs d'Aichi, du nom de la préfecture japonaise où ils ont été ratifiés, n'est pas vraiment une surprise. En 2014, une évaluation de mi-parcours suggérait déjà que nous n'étions pas sur la bonne voie. L'année dernière, un rapport de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques estimait que sur les 9 millions de plantes et animaux qui peuplent la planète, 1 million pourrait être poussé vers l'extinction ces prochaines années à cause de la destruction de leur habitat, la pollution, la surexploitation, la propagation d'espèces exotiques envahissantes et de plus en plus du changement climatique. La solution, selon le rapport, est un changement transformateur. Cela signifie non seulement une meilleure formulation et une plus grande précision des objectifs, ainsi que des méthodes concrètes pour mesurer le progrès des nations, mais également de placer la biodiversité au centre de toutes les politiques qui façonnent nos modes de production, de consommation et d'aménagement des villes et des terres agricoles. Le rapport ajoute que nous devrions impérativement maintenir le réchauffement climatique bien en deçà des 2 degrés Celsius si nous ne voulons pas voir son impact disruptif sur les écosystèmes annuler l'ensemble des actions positives entreprises au profit de la biodiversité. Ce jeudi 17 septembre, lors d'une séance d'information virtuelle sur l'impact humanitaire de la dégradation continue de l'environnement, la paix et la sécurité, le secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, Ibrahim Tiao, a rappelé au Conseil que la protection de l'environnement était vitale pour notre santé, notre richesse et notre bien-être. Selon M. Tiao, la dégradation des écosystèmes, la concurrence des ressources ou la répartition inéquitable des avantages accroissent également la vulnérabilité et augmentent le risque de conflit. Cependant, a-t-il attesté, la coopération environnementale peut accroître la capacité de gestion, de prévention et de rétablissement des conflits. Il a déclaré que les problèmes de sécurité ne se limitaient pas aux conflits violents, mais incluaient également des moyens de subsistance durable, la santé et le bien-être. La réduction des risques pour la sécurité environnementale doit se concentrer sur le maintien de l'écosystème vital de la planète, générant de l'eau, de la nourriture et de l'air pur et sur l'amélioration de la gouvernance des ressources et la résilience sociale aux chocs et aux stress liés aux ressources naturelles, a déclaré M. Tiao. Il a souligné que la protection des terres pourrait déclencher un vaste cycle de paix, de stabilité, de rétablissement de l'écosystème qui produit une boucle de rétroaction constructive allant bien au-delà d'un choix initial de protection de l'environnement.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Chers amis, c'est la fin de cette émission. Marie-Josée Moindo-Boisboileau qui vous l'a présenté vous dit merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt. Laudetur Jesus Christus.
It's anyhow, Lord, anyhow. Well, anyhow. But at the cross I'll bow. Well, I'm on my way to heaven anyhow. I have a mother, I have a father who has gone on before. But I promise the Lord, I would meet them. Well, I'm on my way to heaven anyhow. It's anyhow, Lord, anyhow. Well, anyhow, oh, Lord. But at the cross, I'll bow. Well, I'm on my way to heaven anyhow. Thank God it's anyhow, Lord, anyhow. Well, anyhow, oh, Lord. But at the cross I must bow. I'm on my way to heaven anyhow. Well, you can buke me, you can scorn me, you may scandalize my name, but at the cross I'll